Carrefour de l'Europe part en vacances et je vous propose de redécouvrir un Carrefour de l'Europe enregistré à Pilsen en République tchèque. Pilsen, capitale européenne de la culture 2015.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy tis Europis.
Krzyżowatka Europy.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue à Pilsen. Mais où poser Pilsen sur une carte de l'Europe? Je vais vous aider un petit peu. Pilsen se décline dans le monde par Pils ou Pilsener. Ça sent bon une boisson blonde, mousseuse, emplie d'amertume. Pilsen est en effet au cœur de l'univers de la bière. Et le premier pays consommateur de bière par habitant au monde, c'est la République tchèque. Bienvenue à Pilsen en République tchèque. Pilsen, capitale de la bière, est tout au long de cette année 2015, capitale européenne de la culture. Nous avons posé nos micros au point d'information de Pilsen 2015 sur la place de la République, avec Jemlansti Namiesti Republiki, et réuni quelques invités pour partir à la découverte de Pilsen, de la Bohème et de la République tchèque. Peter Simon, bonjour.
Bonjour.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vous êtes le directeur international de Pilsen 2015. Christian Potiron, bonjour. Vous aussi, vous êtes de l'organisation Pilsen 2015, mais chargé un peu des projets participatifs.
Exactement.
Et alors, vous êtes slovaco-français-tchèque, c'est suspect, non?
Ça devient compliqué à expliquer.
C'est oui. Un peu compliqué. Au départ, vous étiez français.
Toujours français, d'ailleurs.
Toujours français, mais vous êtes tchèque de cœur.
Tchèque de cœur et puis slovaque d'adoption.
Vous réinventez la Tchécoslovaquie à vous tout seul.
Exactement.
Andrei Genitschek, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du conseil municipal de Pilsen, dans l'opposition, mais c'est un peu secondaire pour nous, et président de l'Alliance française de Pilsen. Sylva Novakova, bonjour. Dobrý den.
Bonjour à vous tous.
Vous êtes professeur de pédagogie à l'université de Pilsen. Tout comme Hélène Siegel-Vulmet, bonjour, vous êtes professeur de français
oui.
À l'université de Pilsen. Et puis un étudiant et une lycéenne, Marianne Loos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'étudiante.
Je suis l'étudiante,
Et oui. Dominique Vu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le lycéen et vous êtes un peu les représentants des jeunes de Pilsen. Et puis tout à l'heure, on entendra le groupe Année Santé en fin de l'émission. Alors Peter Simon, dans notre localisation de Pilsen, on va être encore un peu plus précis. Pilsen, c'est la capitale de la Bohème occidentale. Et la Bohème, c'est une des deux parties de la République tchèque. L'autre, c'est la Moravie, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Hein, on est plutôt, si on regarde une carte de la République tchèque, plutôt à l'ouest. Hein.
Oui, on est situé à l'ouest.
Plus proche de Prague ou plus proche de la frontière allemande?
Les deux. Pilsen est situé à 60 km ou 80 km de Prague et plus ou moins 70 km de la frontière tchéco-allemande.
Presque à équidistance.
Oui. On peut pas éviter. Les Bavarois ou les Allemands, quand ils vont à Prague, voilà, il faut qu'ils passent par Pilsen.
Ils s'arrêtent?
Ils s'arrêtent de plus en plus.
Alors, André Genitschek, Pilsen est la capitale européenne de la culture 2015, tout comme Mons en Belgique. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir devenir capitale européenne de la culture?
Je pense qu'une des raisons, c'était que la ville de Pilsen était pendant le XXe siècle une ville industrielle. On voulait aussi un peu faire quelque chose pour la culture, changer un peu la société ou la ville de Pilsen, un peu donner un aspect culturel.
Sylva Novakova, est-ce que vous diriez plutôt que Pilsen, c'était une belle endormie, un peu comme la Belle au bois dormant?
Je ne le dirais pas. Non. Parce que la vie culturelle de la ville de Pilsen est très riche depuis un siècle, au moins. Il y a beaucoup d'amateurs dans la musique à côté des professionnels. Donc moi, je ne dirais pas que ça apportait un gros changement de la vie culturelle, mais c'est plutôt un changement mental, parce que justement, ça permettra d'accueillir la culture dans plus de familles, dans plus grand nombre de familles.
Alors Peter Simon, quand on est candidat pour être capitale européenne de la culture, on fait ça pour soi ou pour les autres?
J'ose ne pas être d'accord avec Sylva. Je pense que Pilsen a un aspect assez conservatrice et c'est pourquoi voilà, on a voulu faire des changements, on a posé le dossier de candidature. Donc on a fait ça pour nous, mais aussi pour l'Europe, pour les deux. On a voulu ouvrir les fenêtres, vraiment faire inviter des artistes étrangers, etc.
Alors il y avait une autre ville qui en République tchèque qui voulait être candidate aussi, qui était candidate, c'est Ostrava. Alors là, c'est l'extrême est de la République tchèque. Qu'est-ce qui fait que vous avez été meilleur, Peter Simon?
Il y avait trois villes candidates au premier tour. Il y en avait trois, puis deux. Et c'est, ça a été présenté en tant qu'un grand duel, Moravie, la Bohème, etc. Comme Sylva vient de dire, c'était juste. C'était 6-5, je pense. Disons que c'était la vision du changement. Et on avait établi quand même de bons contacts avec les étrangers, les institutions étrangères, les artistes étrangers, ce qu'on appelle network, le réseau international.
Alors, Christian Poutéran, quelle est la philosophie de Pilsen 2015?
Tout simplement, on a un slogan qui dit « Pilsen, open up ». Donc, on pourrait voir ça comme simplement le fait d'ouvrir une bouteille de bière.
Ah, on va y revenir à la bière, voilà. On va y venir.
Mais je pense que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que dans le concept de Pilsen 2015, il y a effectivement cette idée de s'ouvrir sur le reste de l'Europe, de présenter un petit peu ce paradis perdu qu'est, ou caché qu'est Pilsen. Bon, c'est une ville que je trouve magnifique, avec une place centrale qui est magnifique, avec beaucoup de verdure, avec des lacs, avec il y a vraiment une qualité de vie à Pilsen qui est vraiment très intéressante. Et culturellement, effectivement, c'était de dire, bah, présentons au reste de l'Europe ce qu'il y a ici, ce qu'il y a comme trésor caché à Pilsen, et impliquons les habitants dans le fait de s'ouvrir vers les cultures extérieures, de s'ouvrir vers le reste de l'Europe, et de se présenter et d'accepter aussi les différences et les impulsions qui viennent de l'extérieur.
Alors Dominique Marianne, vous qui représentez à vous tout seul toute la jeunesse de Pilsen, qu'est-ce que ça change? Vous êtes plutôt content que Pilsen soit capitale européenne de la culture 2015, Marianne?
Je pense être plutôt d'accord avec Sylva que ça ne change pas que ça soit Pilsen 2015. Je pense que Pilsen était déjà au niveau culturel très très élevé. Je pense qu'il y avait déjà beaucoup de concerts, je sais pas, beaucoup d'expositions, de théâtre, etc. Donc oui, peut-être qu'il y a une évolution, mais je pense que Pilsen était déjà au niveau culturel assez élevé.
Dominique, vous heureux que Pilsen soit capitale européenne de la culture?
Oui, moi je suis très heureux parce que même en France, il y a toujours des gens qui savent pas où c'est la République tchèque. Alors, ils savent pas où c'est Pilsen. Et je pense que grâce à ça, ils vont peut-être le savoir.
Oui, c'est évidemment un bon point, donc c'est quand même une ouverture vers les autres. Qu'est-ce que vous avez envie de dire comme ça aux Européens, aux autres Européens, Peter Semen ou...
Là, on a eu envie de dire que le potentiel, qu'il y a de bons artistes, vraiment qu'il y a beaucoup de choses à offrir. Mais malheureusement, voilà, ce qu'on attend, c'est, voilà, une coopération beaucoup plus riche au niveau international. Voilà, donc, le message, c'est, oui, nous sommes là et nous avons le potentiel, voilà, qui est au passage, de l'histoire industrielle de la ville ville créative. Un des slogans ou un des mottos, c'était aussi en français, c'est du totalitarisme à la créativité.
Alors c'est vrai que vous avez fait référence les uns et les autres au passé industriel de Pilsen. Il est important, le grand nom industriel tchèque Škoda est né ici à Pilsen, si j'ai pas de bêtises, c'était en 1869. Alors, Andrej Žinček, est-ce que cet enthousiasme qu'il y a autour de la table, est-ce qu'il a été partagé au conseil municipal ou est-ce qu'il y a une grande bataille? Parce qu'il y a toujours des gens qui disent, on va pas faire des dépenses inutiles pour la culture alors qu'il y a des trottoirs à réparer.
Mais bien sûr que c'était pas tout le temps facile, qu'il y avait toujours des luttes et des combats au conseil. Et je pense que c'est quand même normal. C'est ce qui est positif, que tout le monde en parle au conseil municipal. Et il y a toujours, je pense, la plupart des membres, ils sont d'accord et ils sont fiers de ce projet.
Alors, on va parler un petit peu de Pilsen. Et Christian Potiron, vous avez évoqué cette place de la République où nous sommes. C'est vrai que c'est le joyau, le cœur de Pilsen. Alors, il y aura sur le site internet, sur la page de l'émission, un petit album photographique concocté par Guillaume Munier. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, cette place de la République, c'est une place baroque. Comment on peut l'exprimer? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette place qui est très belle, avec au milieu une cathédrale sur la place de la République?
Je ne suis pas l'expert de l'histoire architecturale de la ville, mais en deux mots, c'est une des cathédrales avec le plus haut clocher de République tchèque, et une des plus grandes places comme ça en centre-ville, avec ces bâtisses qui sont magnifiques autour et ces façades. C'est un des lieux qu'on utilise beaucoup dans le cadre de la programmation, mais je pense que traditionnellement, c'est le lieu où les Pilsenois se rencontrent. Il y a cette petite histoire de l'ange qui est sur un des grillages derrière la cathédrale, où on voit tous les jours la plupart des habitants s'arrêter, faire un vœu, il touche cet ange et ça fonctionne. Et pour moi, c'est toujours passionnant de voir toutes ces traditions autour de cette place.
Ce petit ange, effectivement, j'ai moi aussi posé ma main sur le petit ange de Pilsen. Il y a une multitude de petits anges et puis il y en a un à hauteur d'homme. On pose sa main, il y a des à l'évidence des millions de personnes qui ont posé leurs mains, parce qu'on ne peut même plus soupçonner que c'était une tête d'ange sculptée. Maintenant, c'est une boule de métal. Hein. Faut vraiment avoir beaucoup d'imagination pour voir derrière cette petite boule de métal un ange. Alors, il y a la ville aérienne autour de cette place, et puis il y a aussi, André Genicek, une ville souterraine.
Ah oui, il y a beaucoup de kilomètres de voies souterraines sous le centre de Plzeň. Il y en a aussi pas mal à la brasserie de Plzeň. C'était, je pense, pour les raisons de sécurité, pour les défenseurs, pour pouvoir sortir de la ville. Et il y a une partie qui est ouverte pour les touristes.
Alors, j'ai fait cette visite. C'est un immense labyrinthe. Je crois qu'il y a un kilomètre. On peut se perdre dans un kilomètre. Heureusement, c'est fléché, parce que sinon, on a l'impression que si on met un pied, on reviendra jamais à la surface. Mais je crois que c'est 19 kilomètres de galeries souterraines. Tout n'est pas ouvert.
Oui, exactement.
On y fait référence à plusieurs reprises. On a déjà parlé de la bière une fois ou deux. On a parlé des caves de la bière. Il faut dire que la bière, c'est extrêmement important à Pilsen.
Ah oui, c'est une tradition qui est vraiment la plus typique pour la ville de Plzeň. La brasserie était fondée en 1842. Et depuis cette époque-là, alors notre ville est connue par la bière. Et comme vous avez déjà dit, déjà le nom de notre ville, alors presque pareil comme le
ça veut dire bière de la bière dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passait exactement en 1842, Christian Groupillon, l'histoire de la bière en 1842?
L'expert de longue date dans cette ville. Alors vous m'arrêtez si j'ai faux, puisque j'imagine que vous avez choisi la date en lien avec la bière. Mais dans une de nos balades guidées faites par les habitants, justement, il y a toute l'histoire de la bière de la ville. Et si je ne me trompe pas, c'est certainement l'année quand ils ont créé la brasserie.
Exactement.
Municipal qui est devenu Pilsner.
Mais c'est-à-dire qu'avant, tout le monde pouvait faire de la bière. Enfin, les grands bourgeois pouvaient faire de la bière. Et à partir de 1842, c'est moi qui raconte ça, alors que ce sera vous de le raconter, il y a eu des règles très précises. Et il a fallu faire les bières selon un rythme précis. Et c'est Petra Cheramkova qui va nous raconter l'histoire de la bière.
Notre ville est capitale de la bière parce que ici, il y a des légendes de la bière de type Pilsner. Aujourd'hui, cette bière, c'est vraiment célèbre, c'est la plus célèbre de la bière mondiale.
Et elle est née ici, à la fin du 19e siècle.
Ici, c'est né dans l'année 1842, au 5e octobre. Et c'est grâce de Malter Joseph Kroll.
Alors, la bière, c'est vraiment très, très important pour les Tchèques.
Je pense que oui, parce que nous avons au premier rang de boire de la bière mondiale. Oui, c'est 130 litres par personne, par année. Oui, c'est vraiment important pour les Tchèques.
On commence à boire la bière très tôt, très jeune?
Oh, officiellement 18 ans, bien sûr.
Alors, il y a une formule qui est assez jolie. On dit que la bière, c'est le pain liquide.
Oui, c'est ça. C'est une légende née dans l'Égypte. Parce que dans l'Égypte, on cuisait la bière. Ils n'utilisent pas le malt, ils utilisent le pain. Les boulangeries et brasseries, ils utilisent une four pour préparer le pain. Un pain pour le manger, un pain pour la préparation de la bière. Pourtant, nous disons la bière, c'est le pain liquide.
Alors je vais faire tout de suite une petite rectification. Petra Cheramkova disait que c'est 130 litres consommés par an et par habitant. J'ai regardé, c'est plutôt 150 litres par an et par habitant. Alors à un moment, et vous n'avez pas pu entendre les rires autour de cette table, la consommation de la bière, c'est à partir de 18 ans. Et ça fait éclater de rire Dominique Vous, qui a à peine 18 ans. Pourquoi?
Parce que c'est quelque chose de vraiment typique pour cette région, que il y a beaucoup de jeunes qui commencent à boire de la bière même avant avoir 18 ans.
Alors vous, par exemple, votre maman ne vous écoute pas.
J'espère.
votre premier verre de bière
13 ans, 14 ans.
Alors quelque chose, il y a évidemment un musée de la bière ici à Pilsen que j'ai arpenté, et ce qui était très très amusant pour moi et pour Guillaume Munier, nous avons visité ce musée ensemble, c'est que il y avait outre nous des classes scolaires, des enfants de 6 ans, 8 ans auxquels on expliquait déjà tous les bienfaits de la bière. Donc on comprend effectivement qu'à 13 ans on ait envie de goûter cette bière. Alors est-ce qu'il y a une belle formule, je crois que c'est vous Dominique Vous qui l'avez employé, la bière c'est pas de l'alcool.
Oui, on le dit souvent. Oui, je l'entends souvent cette expression, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on, que les Tchèques consomment très souvent. Et pour nous, ça devient une boisson non alcoolique.
Il paraît qu'on dit, bah, ce soir, je bois pas d'alcool, je vais juste prendre une bière. On dit ça, Peter Simon?
Oui, on dit ça souvent pour une bière, mais on dit aussi que c'est le plus grand mensonge en tchèque qu'on peut dire. C'est-à-dire que chaque fois quand on va pour une bière, on en prend au moins trois.
Alors, Hélène Sigvilmet, vous êtes française à l'origine, aujourd'hui vous êtes franco-tchèque, vous avez épousé un tchèque. À un moment, vous êtes venue pour la première fois en République tchèque. C'est forcément arrivé à un moment.
Oui, c'était il y a 10 ans.
Et alors, qu'est-ce qui vous a surpris? Est-ce que cette consommation de bière vous a surpris ou pas? Ou peut-être que vous êtes venu en bière en République tchèque parce que vous aimiez la bière. Ça peut être aussi une approche.
Oui, ça m'a surpris. Ça me surprend toujours quand on dit qu'on ne boit pas et qu'on boit de la bière.
Christian Potiron, alors vous qui avez un regard slovaco-franco-tchèque, cet amour, ce goût pour la bière des Tchèques, que vous avez d'ailleurs utilisé, puisque vous êtes autour de cette table, vous avez pris une petite bière pour nous tenir compagnie, comment ça s'explique?
Ouh, l'expliquer c'est dur, mais elle est très bonne d'abord, vous avez raison, c'est un des points importants, elle est... Moi, je suis pas forcément un grand fan de bière, ou je l'étais pas au départ. Et c'est vrai que boire une Pilsner Urquell qui vient des fois du tank, puisque c'est plus simplement les bières pression, mais ils ont souvent
des citernes.
Des citernes qui sont remplies. Ça a tout à fait un autre goût. Les bulles sont très fines. C'est un peu leur champagne à eux.
Alors, Sylvain Nicolas, vous avez donné une raison évidente à pourquoi ce goût de la bière de la part des Tchèques.
On en boit parce que la bière est vraiment excellente. En plus, c'est une sorte de médicament. Si on n'en boit pas trop, mais il y a même des avis des médecins qui le disent. Parce qu'il y a beaucoup de minéraux. Vraiment, la bière a beaucoup de qualité.
Pierre Simon, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, il y a aussi un aspect social. En République tchèque, quand on compare avec même avec la Belgique, les Belges, ici, quand on dit on va viens prendre une bière ou trois bières avec moi, ça veut dire tu m'intéresses, je suis intéressé à ce que tu penses, etc. Et vraiment, il y a cet aspect social. On en parlait beaucoup quand on préparait la candidature, parce qu'au début, pour Pilsen 2015, au début, on a voulu exclure, vraiment mettre la bière à part, mais après on s'est dit peut-être c'est la seule chose qu'on sache pour le moment sur Pilsen, donc on a mis la bière.
On a remis la bière, oui. Et Pilsen Urquell, évidemment un partenaire de Pilsen 2015. André,
quand Petré a parlé de Belgique, alors je voudrais aussi dire que si quelqu'un nous écoute, alors que la bière tchèque n'est pas si forte que la bière belge, alors comme ça ils peuvent avoir peut-être l'impression que tout le monde ici sont des alcooliques, comme ça qu'on est capable de boire 5 litres de bière, mais la bière a à peu près 4% d'alcool. Et quand vous avez demandé que si les jeunes ici commencent à boire avant 18 ans, alors je me rappelle quand j'étais en Bretagne, par exemple, alors là-bas, c'est les enfants à partir de 10 ans, alors ils buvaient le cidre aussi. Et je pense que le cidre, il a 4% aussi.
Marianne Louz, un jeune qui n'aime pas la bière, un jeune tchèque qui n'aime pas la bière, ça existe ou pas?
Je ne pense pas, puisque déjà la raison est que la bière, c'est moins cher que l'eau et que le coca. Donc, forcément, tous les jeunes boivent de la bière.
Et vous aussi, vous l'aimez?
Oui, bien sûr.
Et alors, il y a chaque ville, enfin, on va un peu élargir, chaque ville tchèque a sa brasserie, plus ou moins, ou presque, où il y a des grandes marques qui inondent le pays.
Ça vient encore du temps de communisme, quand tout était centralisé, alors il y avait vraiment des grandes brasseries, quelques brasseries en République tchèque, mais dernières 10 ans, on peut dire que de plus en plus il y a des entrepreneurs qui ouvrent, qui font les petites brasseries dans les petites villes, dans les villages.
Donc il y a une renaissance
des petites brasseries.
On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps des infos, et on va se retrouver dans 3 minutes très exactement à Pilsen 2015, capitale européenne de la culture. À tout de suite. Une petite info, si vous nous écoutez à Prague, RFI diffusé en modulation de fréquence sur la fréquence 99.3. À tout de suite.
Magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Krzyżowatka Europy.
The hub of Europe.
Carrefour.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, rebonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours à Pilsen, en République tchèque. Pilsen 2015, capitale européenne de la culture. Et l'on va continuer avec nos invités à découvrir Pilsen et ses habitants. Je vous les représente rapidement. Peter Simon, directeur international de Pilsen 2015. Christian Potiron, responsable aussi des projets participatifs de Pilsen 2015. Andrei Genichek, membre du conseil municipal et président de l'Alliance française de Pilsen. Sylvia Novakova, professeur de pédagogie à l'université de Pilsen. Hélène Sigvillumé, professeur de français à l'université cité de Pilsen, Marianne Loz, étudiante, et Dominique Vou, lycéen. Puis on entendra tout à l'heure Anna Chanté en fin d'émission, c'est un jeune groupe tchèque. Alors Pilsen est une ville à découvrir, on l'a compris, elle abrite bien des secrets, les souterrains de la ville, on les a évoqués, les caves de la brasserie Pilsner Urquell, on en a parlé, une synagogue immense, paraît-il la troisième plus vaste au monde, mais elle est sans vie car depuis la Deuxième Guerre mondiale et l'extermination de la population juive, il reste à Pilsen moins de 100 juifs. Avec Véronica Taoucheva, j'ai arpenté les rues de la ville et au croisement de deux grandes avenues, j'ai aperçu un monument de forme cubique sur lequel on peut lire une inscription inattendue.
Ce qui est écrit là-bas, Dike Americo. C'est un tchèque, ça veut dire merci America.
Et pourquoi les tchèques de Pilsen remercient les Américains ?
Le 6 mai 1945, Pilsen, comme la seule grande ville, a été libérée par la 3e armée américaine. Et jusqu'en 1989, il était interdit d'en parler, de le dire. On disait seulement que c'était les soviétiques qui avaient libéré Pilsen.
C'était un tabou, un secret.
Bien sûr, oui, c'était un tabou, oui. C'était interdit d'en parler.
Et par exemple, vous l'avez découvert après la révolution de velours ou vous le saviez, vos parents vous avaient expliqué ?
On le savait, surtout les parents, bien les grands-parents, on parlait souvent, mais on savait que c'est pas possible d'en parler. Donc même les étudiants répondaient au professeur que oui, c'était les soviétiques qui avaient libéré Pilsen. Parce que si vous ne l'aviez pas dit comme ça, donc vous auriez eu des problèmes.
Alors au pied de ce monument passe la rue de l'Amérique, et autrefois, cette rue de l'Amérique, elle s'appelait Andrei Genichek.
La rue de Moscou.
Et avant encore, elle s'appelait la rue de Staline.
Et avant de Ferdinand.
Ferdinand, c'est évidemment l'empereur. Donc toute l'histoire de la République tchèque à travers le nom d'une seule rue, Ferdinand, l'empereur austro-hongrois, Staline, qui a évidemment marqué les esprits, Moscou et désormais l'Amérique. Les Tchèques se sentent plus proches des Américains ou des Européens finalement, Peter Simon?
Peter Simon, donc il est beaucoup plus proche des Européens. Je suis Européen, je suis pas Américain. Je dirais en général que ça dépend des générations. La génération de mes parents, des gens 50 ans plus, ils sont plus proches aux États-Unis. La génération des trentenaires, des quarantenaires, ils se sentent plutôt européens. Et les jeunes, les vrais jeunes, ils sont plutôt européens.
Hélène, c'est que vous me vouliez.
C'est quand même le rêve de beaucoup de jeunes tchèques d'aller vivre en Amérique et travailler en Amérique, d'aller s'installer en Amérique. Ça reste quand même, je pense, comme un espèce d'Eldorado professionnel et une vie idéale qu'on pourrait avoir en Amérique. Alors, les jeunes tchèques ne partent pas en masse, n'émigrent pas en masse au Canada ou aux États-Unis, mais ça reste quand même un peu un rêve pour beaucoup.
On va revenir un moment plus loin de cette émission sur le rapport des Tchèques à l'Union Européenne. Peter Schemann ou André Genichek, est-ce que Pilsen est après tout la ville des non-dits?
Il y a une chose dont je voudrais parler, c'est que le premier soulèvement dans le bloc soviétique, plus ou moins, contre les communistes, a eu lieu à Pilsen donc le 1er juin 1953. Ce qui est intéressant, c'est que c'était pas les intellectuels, le groupe des dissidents des années 70, mais c'était quelque chose comme en Pologne avec la solidarité, c'est passé ici, c'est-à-dire que les ouvriers des usines Škoda vraiment ont soulevé contre le régime. Malheureusement, donc c'est une grande chose, mais malheureusement ils ont été, comment dire,
étouffés. Alors on peut rappeler que les Tchèques et les Tchécoslovaques à l'époque se sont révoltés été à deux fois contre le régime, une fois en 53, vous le rappeliez, Peter Shimon, et bien évidemment en 1968 avec Alexander Dubček qui a été le héros, en tout cas la figure de ce printemps de Prague. Christian Potiron, est-ce qu'on peut dire que Pilsen est une ville cachée? Je dis ça comme ça parce qu'il y a des tas de choses, on passe devant, on les voit pas. Par exemple, les restaurants. Alors, il y a des restaurants qui ont une vitrine sur la rue, puis il y a d'autres restaurants, une toute petite enseigne, il y a quelques marches et on découvre dans une cave un restaurant. Et alors, quand on est touriste ou visiteur, on ne le voit pas forcément. Est-ce qu'on aime cette notion de ville cachée? Est-ce que c'est un trait ou pas caractéristique des Tchèques?
Non, mais comme peut-être je le disais autour du thème de ouvrir Plzeň, il y a quelque chose de l'ordre de partager un petit peu ce savoir-vivre ou les richesses de cette ville. Et c'est vrai que c'est une des villes les plus riches de République tchèque qui va le mieux économiquement. Mais c'est vrai que Plzeň a plein de choses à offrir et très souvent, on en parle peu finalement, ou le monde peu. Alors effectivement, vous l'avez expliqué avec les restaurants, mais c'est souvent lié au fait qu'il y a plein de caves. Et donc du coup, c'est intéressant d'utiliser ces caves comme des lieux intéressants pour manger. Mais il y a plein d'histoires, comme celle de la libération, de la révolte de la monnaie, donc cette révolte en 53, de la libération par les Américains. Et nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire dans le programme, c'est de donner la possibilité aux habitants de devenir des guides de leur ville et de raconter ces histoires.
Alors là, c'est directement vous qui en êtes le responsable. Il y a déjà, où ça va exister dans très peu de temps, une application qui va permettre de découvrir Pilsen d'une manière originale, en quelques mots.
Tout à fait, donc le projet s'appelle Ville cachée en français, Hidden City ou Skryté mesto en anglais et en tchèque. Et effectivement, l'idée c'est d'offrir une manière différente de voyager, de faire du tourisme. Personnellement, après avoir passé tant d'années à l'étranger et voyager beaucoup, je suis assez lassé par le tourisme habituel. Et là, c'est vraiment offrir la chance aux visiteurs de découvrir Plzeň, pas par le programme de la capitale, mais directement.
Un exemple.
Balade patrimoniale organisée par un des habitants de la ville autour de la prison Borska, qui était la prison où a été notamment enfermé Václav Havel à une certaine époque. Et il prend donc un groupe de visiteurs à découvrir. Bien sûr, il rentre pas dans la prison avec les visiteurs, mais il y a toute une balade autour de la prison avec où ça y est, manger, avoir un repas bio avec une association environnementale sous un des toits autour de la place centrale avec vue sur le centre de la ville, ou un cours de cuisine tchèque avec des produits achetés au marché biologique, etc., etc.
Puisque vous évoquez la cuisine tchèque, Christian Potiron, la base de la cuisine tchèque, est-ce que c'est le chou? Hélène Siegel-Vulmec, vous avez souri à cette évocation du chou.
Moi, je trouve que c'est plutôt la pomme de terre. Il y en a vraiment toutes les manières.
Sous toutes les formes?
Sous toutes les formes. Voilà. Sucré-salé, c'est vrai. Ouais. Et puis la viande, c'est le porc.
La viande, c'est le porc. Novakova. À l'instant, Christian Potiron disait que la ville de Pilsen était une ville plutôt riche. C'est vrai que le chômage y est très faible. Déjà, le chômage en République tchèque, c'est autour de 7%. Donc, forcément, un petit peu moins à Pilsen. Il y a peut-être une explication, tout le monde m'a dit à Pilsen, et je ne l'ai pas vérifié, c'est que à Pilsen, les habitants, peut-être aussi dans la République tchèque, se lèvent tôt. Et il paraît que les trams à 4h, 5h du matin sont bondés, mais est-ce que c'est vrai que les Tchèques se lèvent tôt?
Mais chez nous, d'habitude, on commence avant 6h, et on termine à 2h, soit on vient, on travaille à 2h, on travaille jusqu'à 10h du soir, on peut travailler pendant la nuit, mais c'est vrai que dans les écoles, on commence l'enseignement à 8h, dans toutes les écoles quasiment, et les magasins ouvrent à 8h, à 9h, à 10h au maximum. Donc le rythme est différent de celui en France.
Comment ça s'explique dans les jeunes tchèques que les tchèques se lèvent si tôt? Il y a une explication, non? C'est Hélène Siegel-Vulmec.
C'est peut-être simplement une explication géographique, parce qu'on est plus à l'est dans le fuseau horaire, donc le soleil se lève plus tôt.
Ouais.
Et donc pour profiter plus de la lumière, on commence plus tôt, on termine plus tôt. Mais c'est vrai que c'est, par rapport à la France, c'est très agréable ce rythme. Parce que de finir à 14h, 15h, ça laisse quand même une grande après-midi pour avoir des activités.
Alors justement, que font les Tchèques après 15h, Dominique, vous?
Puisqu'on a beaucoup de temps libre après l'école, ce sont les loisirs qui jouent un rôle important. Ici à Plzeň, il y en a tous les types, il y a les écoles de musique, il y a beaucoup de sports, il y a même une équipe de foot américain. Vraiment, c'est quelque chose d'important pour les Tchèques, les loisirs.
Alors, à Pilsen, on m'a dit, d'une phrase, Pilsen, c'est un village avec un tram. Vous souriez tous autour de cette table, il y a quelque chose de vrai, Peter Schimon.
C'est vrai, malheureusement, le plus grand village avec le tram, c'est Brno. Ouais.
Et pan pour les Moraves. Alors, le tram, il y a évidemment quelque chose de très amusant, c'est que le tram numéro 1, le numéro 2, le numéro 4, où est passé le tram numéro 3 ? Question de Potiron.
C'est une des histoires cachées de la ville. C'était le tram qui allait jusqu'à Škoda. Sauf que celui-là, il a été fermé parce qu'il était plus utile dans la manière dont il était utilisé. Dans une des balades patrimoniales qu'on a, justement, il parle de cette histoire du tram numéro 3 qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui servait à l'époque pour les ouvriers d'entreprise.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe à Pilsen en République tchèque. Alors vous avez tous compris que Pilsen était une ville à tiroirs. Hein. Il y a ce qu'on voit et puis au fur et à mesure qu'on ouvre les tiroirs, des choses à découvrir, plein de choses cachées. Et il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est cette place de la République. Et sur cette place de la République, il y a une cathédrale. Et lorsqu'on entre dans cette cathédrale, on s'aperçoit qu'on ne peut pas vraiment y entrer car il y a, je veux dire, une grille qui vous empêche d'entrer. Car une autre caractéristique des Tchèques, c'est que les Tchèques croient très peu en Dieu, et Schimon.
Oui, c'est vrai. Nous croyons que le Dieu n'existe pas, voilà, donc nous sommes croyants aussi.
Sylvano Novakova.
C'est très personnel d'abord, on ne peut pas dire qu'on ne croit pas. Pendant la période du communisme, les chrétiens ont été poursuivis finalement. En tant que les enseignants se promenant dans une église auraient pu avoir un problème. Donc, il y avait beaucoup moins de baptêmes. Mais ceux qui étaient chrétiens, c'était vraiment sur les catholiques ou les évangéliques, c'était des personnes pratiquantes. Parce que je trouve qu'en France aussi, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont officiellement baptisées, mais finalement, ils ne pratiquent pas. Et ça ne veut pas dire quand ils sont baptisés qu'ils croient.
Vraiment. André Genichek.
Encore que c'est vraiment lié à l'histoire de la Tchécoslovaquie, parce que c'est déjà la religion catholique, alors elle était très liée avec le régime ou l'empereur austro-hongrois. Alors, quand en 1918 était créée la Tchécoslovaquie, alors beaucoup de gens, ils révoltaient aussi l'Empire austro-hongrois, mais aussi contre la religion catholique qui représentait l'Autriche. Et après, c'était les 40 ans de communisme, quand il y avait les ordres religieux qui étaient interdits, et vraiment, les prêtres, ils étaient discriminés, et c'était pour les croyants, c'était difficile de survivre.
Mais c'est intéressant parce que dans la Pologne voisine, une façon de s'opposer au régime, c'était justement d'être plus chrétien que les chrétiens. Christian Potiron.
D'ailleurs, c'est le cas en Slovaquie. C'est pour ça que c'est pour moi assez étonnant. C'est-à-dire que quand on compare la Slovaquie d'aujourd'hui et la République tchèque d'aujourd'hui, alors qu'elles ont une histoire quand même commune assez longue, et notamment cette histoire et ce vécu du communisme, en Slovaquie, le pourcentage de croyants est très élevé et il est à l'inverse très bas en République tchèque. Donc il y a quand même quelque chose qui va au-delà de cette expérience des 40 ans de communisme qui fait que vous ayez une relation à la religion qui est si différente. Mais bon, ça fait partie des différences entre les deux pays. Mais pour moi, ça reste toujours une question que je comprends toujours pas dans les détails d'où vient cette différence entre les deux pays.
On va quitter la religion, l'athéisme et revenir à Pilsen. À Pilsen, il y a plusieurs théâtres et même un opéra. Peu de villes de 170 000 habitants peuvent s'enorgueillir d'abriter un opéra. Et lorsqu'on m'a proposé de rencontrer le directeur de l'opéra, j'ai accepté à reculons avec l'image d'Épinal qui était en moi, qu'un directeur d'opéra, c'est forcément un vieux monsieur barbu et parfois barbant. Et j'ai été très surpris de rencontrer Thomas Pilar. Il a 27 ans, déjà une longue carrière derrière lui. Ce soir-là, on jouait Aïda. Et je lui ai demandé quel rapport les Tchèques entretenaient avec les musiques.
Jedno české přísloví praví, že co Čech to muzikant. A řekl bych, že o Plzni to platí dvojnásob, protože...
Dire que les gens en Plzeň aiment beaucoup le théâtre, pas seulement à Plzeň, mais aussi à Prague. Et ce qui ça désigne, c'est surtout ça, que le théâtre est chaque soir complètement réservé, occupé. Il y a toujours, la salle est toujours pleine. Et on dit que chez nous, il y a un proverbe que chaque Tchèque est un musicien.
Alors, est-ce que les Tchèques sont sensibles à une forme particulière de musique ou est-ce qu'ils sont ouverts à toutes les musiques du monde, y compris les musiques modernes ?
On
dit que chaque genre a ses écouteurs spéciaux, que ce n'est pas seulement la musique moderne, mais surtout l'opéra, qui est vraiment spécial à Pézenne, qui est très apprécié chez nous.
Est-ce que c'est par hasard, ou est-ce que c'est dans la logique des choses que le premier président de la République tchèque a été un auteur dramatique? Évidemment, je veux parler de Václav Havel.
Monsieur le directeur Pilas pense que c'est une spécialité ou bien c'est une caractéristique spécifique pour les gens du gouvernement tchèque, que ce soit les présidents ou bien les rois. Donc en général, ils aiment l'art.
Est-ce que finalement les Tchèques ressemblent davantage à Václav Havel ou aujourd'hui à Miloš Zeman, qui est l'actuel président de la République?
Monsieur le directeur répond comme ça que tous les deux présidents mentionnés sont des êtres complètement différents. On dirait le pile et la face d'une même pièce, oui.
Les faces d'une même pièce, c'est évidemment intéressant, car qui sont ces Tchèques? Est-ce qu'ils s'apparentent plutôt à Václav Havel, le dramaturge, l'écrivain, l'homme de théâtre, un des grands intellectuels de la République tchèque, ou Miloš Zeman, évidemment, qui lui a succédé, pas directement, entre-temps il y a eu Václav Klaus, qui était, on va dire, la face pragmatique, pratique, sans trop de fantaisie, de la République tchèque. Alors, finalement, qui sont les Tchèques? Est-ce qu'ils s'apparentent davantage à Václav Havel, un romantisme, une grande ouverture sur le monde, ou Václav Klaus ou Miloš Zeman? Qui veut répondre? Vita Šimon.
Si j'imagine moi-même ayant quelque chose de Miloš Zeman, j'ai honte. Mais moi, je suis un grand havliste.
Voilà. André Genicek.
J'ai encore que... Il y avait des élections présidentielles, alors quand on regarde les résultats, alors le deuxième candidat, alors il était plus proche à Václav Havel, alors je dirais qu'il y a 55% qui sont plus proches de Miloš Zeman et 45% qui sont plus proches de Václav Havel.
Dominique Vous et Marianne Loos, est-ce que le personnage de Václav Havel est un personnage important pour vous? Il est décédé il y a 2 ans, je crois, à peu près. Il est évidemment l'homme de la révolution de velours du novembre 1989. Est-ce que c'est un personnage important ou pas? Dominique, vous qui avez 18 ans, 19 peut-être.
Moi, je pense que Václav Havel, si vous demandez à quelqu'un à l'étranger s'il connaît Václav Havel, il y a une grande possibilité qu'il dise oui. Mais si vous demandez s'il connaît Václav Klaus ou Miloš Zeman, je pense qu'il va pas répondre oui.
Un mot encore sur ce rapport un peu ambigu, on l'a évoqué, entre les Tchèques, entre l'Europe et les États-Unis. La République tchèque est dans l'Union européenne depuis 1914, donc 11 ans, ça fera 11 ans le 1er août de l'année 2015. 18% des Tchèques ont voté aux élections européennes, c'est pas beaucoup, ça s'explique comment? La République tchèque n'a pas adopté l'euro, elle n'envisage pas de le faire prochainement. Ça s'explique comment? Les Tchèques ont un goût un peu ambigu à l'égard de l'Union européenne?
La politique en général, je crois. Les Tchèques sont assez éloignés de la politique. On entend souvent... Enfin, moi, je suis enseignante de français et quand j'aborde la politique dans mes cours, c'est « Oh non, on veut pas en entendre parler, ça nous intéresse pas. » Ce qui, pour moi, pour une Française, c'est assez étonnant. Ça s'explique, je pense, par des raisons historiques. Sous le communisme, si je ne me trompe pas, vous étiez obligé de voter, les Tchèques étaient obligés d'aller voter et donc obligés de s'intéresser à la politique en sachant que c'était de toute façon faussé. Donc maintenant, je pense que c'est une réaction au communisme.
Peter Schumann.
Je dirais que malheureusement, les Tchèques, ou nous les Tchèques, on confond assez souvent l'Union européenne avec Bruxelles, le quartier européen à Bruxelles que je déteste, entre autres. Mais pour moi, l'Union européenne, l'Europe, c'est d'autres choses. Et je dirais, vous l'aviez évoqué, les Tchèques ne voyagent pas beaucoup. Donc je pense qu'il nous manque cette expérience. On ne sait pas souvent, la majorité ne sait pas ce que ça veut dire, voilà, être enrichi par différentes cultures, etc. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Et plus ou moins tous mes amis sont plus ou moins comme moi, donc on voyage, on parle des langues étrangères, mais la majorité, on aime bien d'être chez soi. Et comme Christian a dit, Il y a ce paradis pilsenois, donc il y a aussi le paradis tchèque évoqué dans l'hymne national d'ailleurs.
Et son petit rond d'un mot.
Ouais, je pense qu'on oublie souvent qu'il y a cette transition, elle a eu lieu quand même extrêmement rapidement, entre 40 ans de communisme et le jour d'aujourd'hui. Et on attend des gens qui ont vécu ces 40 ans d'histoire douloureuse que d'un moment ils changent d'environnement, changent de règles. La démocratie, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Je suis en charge de la participation dans le projet de Pesen 2015. On est tout le temps en train de me dire, mais non, les gens ici vont jamais faire la fête des voisins, ils vont jamais faire parce que c'est pas dans l'habitude, c'est pas dans la culture tchèque. Non, si on donne réellement l'occasion de le faire, que c'est bien organisé, ça arrive. Donc je crois qu'il faut rester optimiste et positif dans ça. Voter la politique, ça fait partie d'un processus éducatif et je suis assez positif là-dedans et optimiste.
Ça va être presque le mot de la fin. Le mot de la fin, vous allez tous l'avoir à votre tour, en un ou deux mots maximum, une bonne raison de venir à Pilsen en 2015. On commence par vous, André Genichek.
J'aimerais bien inviter tout le monde pour venir à Pesen. Celui qui va venir, alors il peut participer au concert, il peut visiter la ville qui est jolie, et ceux qui aiment bien le sport, alors il peut aussi voir le match de hockey sur glace ou de l'équipe de foot.
Qui est évidemment une grande spécialité de la République tchèque. Marianne Loos, une bonne raison quand on a 20 ans de venir à Pilsen en 2015?
En un mot, festival. Il y a beaucoup de festivals, de films, de musique, de concerts.
Dominique Vu, une autre bonne raison de venir à Pilsen?
Je veux dire que Pesen, c'est une ville très belle, surtout quand il fait beau. Donc, si vous avez du temps quand il fait beau, venez.
Hélène Siegel-Vulmer, d'un mot.
Oui, la ville est très agréable. Elle est vraiment. Et puis, il y a eu un effort de fait sur la revitalisation des espaces verts, des espaces publics. Et donc, on peut vraiment profiter des espaces de parc et des espaces de la ville, en fait, où il se passe toujours quelque chose pour se promener.
Sylvain Novakova.
Pesen a été traité d'un village avec le tram. Donc, à mon avis, il ne faut pas prendre le mot village au sens péjoratif, plutôt au sens de la convivialité.
Et alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, si j'ai pu me permettre. Les organisateurs de Pilsen 2015, Christian Potiron.
Je me souviens quand j'ai déménagé pour la région, tout le monde, surtout les Français, arrêtaient pas de me dire oh, Europe centrale. Ils disaient déjà Europe de l'Est. Aujourd'hui, j'ai les réflexifs, je dis c'est l'Europe centrale. Le cœur de l'Europe, il est ici. Et il faut casser un peu les stéréotypes. C'est très agréable. Il faut venir découvrir cette partie de l'Europe qui est pleine de vie et qui est pleine d'avenir aussi. Donc.
Et vous, Peter Schemann, c'est vous qui avez le dernier mot, le dernier conseil pour convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus.
Pilsen, c'est une ville en transition qui a pris un bon chemin, bonne direction et il y a des gens ouverts et sympathiques après tout et une bonne ambiance, voilà. Donc je suis d'accord avec mes collègues.
Merci à tous d'avoir été à ce Carrefour de l'Europe à Pilsen, réalisation Guillaume Munier. Merci à l'équipe de Pilsen 2015 et à Marie Moucheva du Tchèque Tourisme. Sur la page de l'émission, plein de choses vous attendent et notamment pour en savoir un peu plus sur Pilsen 2015. On reste en contact avec les pages Facebook et Twitter de l'émission. Daniel Lescalou, que vous soyez à Pilsen, à Prague, à Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et on va se quitter en musique et en chanson avec le groupe Anna Chanté et sa chanteuse. Anna Chanté, ça veut dire quoi?
Notre groupe Anna Chanté, parce que je m'appelle Anne et je chante, c'est tout. Et on aime les jeux de mots. Et voilà, enchanté.
Et le titre de la chanson que vous allez nous interpréter?
La chanson s'appelle Mademoiselle Prague, mais nous venons de Pilsen et on adore Pilsen.
Merci, on va vous écouter et bravo.
Svi otvazi mi pri každou noci, jen Madonou čistou, že může mě zvat a ze všech nejvíc mám je rád. Raději to vzej a běž o dům dál pro jiný hrej a hledej svůj král. Já nejsem ta, se kterou bys rád žil, hebonka králo. Chor, u vltavských nor, když vyhasnu plamena i lásky žár, kdo z vás po mém boku stál? Jsem krásná, když tančí na náměstí, s kamárem zní můj houščí smích, však na kůži skrývám mrázký střel, ty jsi je neviděl. Za letních dnů muži cizí mě zvou do svých snů a po ránu prosím, kdo drobák vydá, pod
pláštěm zakoulená. Anděl, co krouží propastí let, co s hejnem klouží u zábradlí set. Má krev proudí z mostů i nábřeží, svůj smutek skrývám do věží. Já zpívám dál pro narvanej sál, pro krysí chor, vltavských nor, když vyhasnu plamen i láský žár. Kdo z vás po mém boku stál? Jsem krásná, když tančím na náměstí. Z kavárem zvíků holčičí smích, však na kůži skrývám vrázky střel. Ty jsi je neviděl. Pro krysí chor u vltavských nor, když vyhasnu plamen i lásky žár. Kdo z vás po mém boku stál? Jsem krásná, když tančím na náměstí. Z kaváren zní můj holčičí smích, však na kůži skrývám vrázky střel. Ty jsi je neviděl. Prý mě zná, no já vím svý, o tváři mý, prý každou noc sní, jen má donou čistou, že může mě zvát a ze všech nejvíc má mě rád. Já patřím všem a žádnému z vás, jsem dobrem i zlem, jsem tajemství krás. Můžeš mě hladit a můžeš mě chtít, však to, co bys rád, to nelze mít.
Merci pour votre fidélité. Carrefour de l'Europe s'en va quelques semaines en vacances. On se retrouve début septembre pour de nouvelles aventures européennes. Mais tous les dimanches de l'été, vous retrouverez Sophie Joubert avec Portrait d'Europe. RFI.